Et un grand bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le grand rendez-vous jusqu'à 14h sur France Inter, 13h30 sur France Culture, dont je salue chaleureusement les auditeurs. Un journal complet d'informations, ce sera dans une demi-heure, et puis des échanges entre vous, nos invités et les chroniqueurs et signatures de France Inter. Dans les minutes à venir, vous travaillez dans une petite entreprise en indépendant ou vous êtes en télétravail. Quelles difficultés rencontrez-vous? Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000, je vous attends, et sur l'appli France Inter. Également. Nos deux invités seront François Asselin de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises et puis Nelly Magré, elle est co-auteure de ce livre Le Télétravail pour les Nuls. À 12h50, nous serons avec Philippe Bertrand. Chaque jour avec Philippe, une initiative, un interlocuteur pour positiver. C'est la France des solutions. Coup d'œil rapide à ce grand rendez-vous, le programme après 13h30, vos rendez-vous qui seront quotidiens désormais. Comment la vie se réinvente sur Internet avec Sonia De Villers? Une question au carrefour de la science et de la société avec Mathieu Vidard aujourd'hui. Peut-on encore se toucher, s'embrasser en famille et en couple? Mishka Assayas nous fera écouter un disque pour oublier le confinement. Et une des grandes voix d'Inter nous donnera des conseils, lecture et cinéma. Aujourd'hui, Jérôme Garcin. Nous sommes le mardi 17 mars et depuis une demi-heure, la France est en confinement quasi total. Les Français vont-ils le respecter? C'est pas gagné.
Bonjour, est-ce que vous acceptez de me parler, madame?
Bah, je cours surtout.
Est-ce que je peux courir à côté de vous?
Ah bah oui.
Vous faites votre exercice là?
Oui.
Avant le couvre-feu?
Avant le couvre-feu, mais ça ne m'empêchera pas de le faire après. Faut s'organiser. Là, je cours avec mon fils et on a décidé qu'à partir de demain, on courrait séparément.
Voilà pour cette joggeuse au micro de Cécilia Arbona. Nous sommes à distance, mais nous sommes tout proches. C'est exactement la définition de la radio. Le grand rendez-vous jusqu'à 14h. C'est parti.
France Inter. Midi et demi, 14h. Le grand rendez-vous.
Et chaque jour, nous commencerons avec un sujet qui vous concerne directement dans cette période très particulière. Aujourd'hui, comment la traverser, cette période, quand on travaille en indépendant, dans une petite entreprise ou en télétravail? Au standard de France Inter, Jacqueline nous a appelé. Bonjour Jacqueline. Est-ce que Jacqueline est en ligne avec nous? Au 01 45 24 7000. Nous ne l'avons pas encore. Je vais vous présenter mes deux invités en attendant d'entendre Jacqueline. Bonjour François Asselin.
Oui, bonjour.
Président de la CPME, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Et je salue également Nelly Magré. Bonjour. Psychologue du travail, coach, consultante, et vous êtes la co-auteure du Télétravail pour les Nuls avec Jeannine Roncati. On parlera évidemment de télétravail avec vous. François Asselin, une première question avec vous. On a entendu les mots de guerre prononcés par Emmanuel Macron hier, guerre économique, dit le ministre Bruno Le Maire ce matin, qui a présenté toute une série de mesures, on les détaillera. L'état des lieux avec vous, François Asselin, quel est-il? Est-ce qu'il y a une taille d'entreprise, des secteurs en particulier, que la situation qu'on traverse, mais particulièrement en difficulté?
Oui, déjà, tous les secteurs qui ont appris samedi à 19h qu'il fallait baisser le rideau à partir de minuit sont les premiers secteurs impactés. Hein. Vous les connaissez, ce sont les restaurants, ce sont tous les lieux qui reçoivent du public et qui sont non prioritaires par rapport à la mesure de confinement, même si le mot n'a pas été prononcé par le président de la République, mais c'est quand même bien ça que nous sommes en train de vivre, à savoir les commerces alimentaires. Eh bien, tous ces commerces, toutes ces entreprises sont directement impactées, mais avant, vous savez, vous aviez tout ce qui concernait l'événementiel, les agences de voyage, les autocaristes, bref, vous avez en cascade, eh bien, toute l'économie de la France qui se trouve, bien sûr, en panne aujourd'hui, qui va se trouver en panne, mais pour autant, il faut continuer assurer ne serait-ce que la maintenance des frigos pour que les denrées périssables ne périssent pas. Il faut assurer la maintenance des chaudières pour que si une chaudière tombe en panne, on ait toujours du chauffage. Il faut assurer la maintenance informatique. Bref, il ne faut pas oublier qu'au-delà des métiers qui directement sont concernés, à savoir les métiers du médical, sanitaire, eh bien vous avez toute une ribambelle de métiers, de beaux métiers, votre boulanger, votre boucher, qui doivent rester en activité, l'agroalimentaire, pour que tout simplement on continue à vivre.
Et on voit apparaître en particulier depuis hier dans les commerces, des commerçants qui ont désormais un masque pour servir justement, que ce soit dans les pharmacies ou dans les boulangeries. Le confinement dans une petite entreprise, François Asselin, ça se passe comment? Dans les grandes entreprises, il y a des DR qui peuvent gérer cela. Dans une petite entreprise, comment ça se passe?
Oh, écoutez, c'est très direct souvent, c'est-à-dire que vous avez soit des personnels qui sont des fonctions support de l'entreprise, donc personnel administratif, et là on organise immédiatement le télétravail lorsque c'est possible. Donc la personne prend son ordinateur bureau et puis va travailler chez elle si on peut faire une continuité d'activité. Concernant les métiers purement de production, là c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on essaye tout simplement d'organiser l'hygiène telle qu'on nous l'a indiqué à travers toutes les recommandations qu'on a eues abondamment et qu'on a toujours, à savoir les gestes barrières. C'est pas toujours évident parce que parfois vous avez du travail qui peut se faire en équipe et avoir un mètre d'écart avec votre collègue ou votre collègue de travail, c'est pas toujours simple à organiser. Mais écoutez, on essaye de faire les choses bien comme il faut. Et puis vous devez bien sûr vous protéger si vous avez un masque sous la main et que vous êtes approvisionné, parce que ça aussi c'est un autre souci. Vous portez votre protection individuelle.
Ouais, j'imagine que vous avez beaucoup d'appels de vos adhérents sur le manque de masques, le manque de matériel.
Oui, parce que on doit, vous savez, en tant qu'employeur, la protection de nos salariés. Et quand vous n'avez pas les éléments, qui s'appellent des EPI, les équipements de protection individuelle à disposition, vous ne pouvez pas les protéger. Du coup, vous êtes contraint parfois à arrêter votre activité parce que vous n'avez pas de masque.
Que vous soyez chef d'entreprise ou salarié ou que vous travaillez en indépendant, et si vous pratiquez aussi le télétravail, appelez-nous jusqu'à 13h 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux. Le plus simple, c'est l'appli de France Inter sur le téléphone pour nous envoyer vos messages. Jacqueline est en ligne avec nous. Bonjour Jacqueline.
Bonjour.
Vous êtes esthéticienne à Paris, vous avez deux salariés. Quelles questions vous posez-vous là alors que le confinement total est instauré en France depuis 36 minutes, pour être extrêmement précis?
Alors la première question, c'est d'abord, je m'impose de payer mes salariés à la fin du mois, même si nous avons arrêté le 14. Donc je vais payer mes salariés, donc je vais faire cette avance. Est-ce qu'il ferait le retour? Comment va se passer ce retour d'argent? Sachant que nous sommes déjà en difficulté puisque nous avons eu les gilets jaunes, nous avons eu la grève qui nous a beaucoup impacté. On s'était pas relevé puisque c'était décembre, janvier, février, on commençait tout juste et encore à se remettre, mais pas comme il fallait. Je vais avoir donc une trésorerie au plus bas, et donc je voulais savoir la procédure que je devais avoir, sachant que moi je ne pourrais pas me payer parce que je suis en nom propre.
Alors restez avec nous si vous avez d'autres questions à François Asselin. Celle-ci est déjà très concrète. François Asselin, comment se faire quand la trésorerie est à sec pour se payer soi-même et payer ses salariés?
C'est l'angoisse de tous les entrepreneurs. D'abord, je voudrais dire à Jacqueline que elle fait preuve d'une responsabilité remarquable, parce que d'abord, et comme beaucoup de chefs d'entreprise, elle pense d'abord à ses salariés. Voilà. Donc félicitations pour ça, Jacqueline. Et donc effectivement, vous allez faire en sorte d'assurer les salaires. Par contre, vous risquez effectivement d'être en panne d'argent sur le compte bancaire de l'entreprise, parce que vous avez fermé votre commerce et les recettes ne vont pas rentrer. Elles seront d'ailleurs absentes totalement. Alors là, d'abord, vous avez vos prélèvements qui vont arriver. Si vous êtes travailleur non salarié, donc indépendante, je pourrais comprendre que c'est cela, le 20, votre échéance du 20 ne sera pas prélevée. Déjà, ce qui concerne la sécurité sociale des indépendants, vous n'aurez pas d'échéance. Toutes les autres échéances, soit vous pouvez les reculer, les retarder, je dis bien retarder, je dis pas annuler, ça viendra peut-être dans un second temps.
Ça veut dire, François Asselin, que dans quelques semaines ou quelques mois, il y aura un coup de bambou, tout ce qui a été reculé, il faudra l'honorer?
Ah ben oui, c'est une énorme chose, c'est une énorme angoisse, parce que là effectivement, comme vous dites, il y aura le coup de bambou, donc il faut absolument amortir au plus vite et rassurer au plus vite pour éviter ce fameux coup de bambou. Et puis si vous avez déjà payé vos échéances au 15, que ce soit pour les impôts ou pour la sécurité sociale, vous pouvez vous demander immédiatement le remboursement. Ceci dit, ça ne suffira pas. Pourquoi ? Parce que votre exploitation, elle est à l'arrêt. Et donc, vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Donc, il faudra penser effectivement à trouver des mesures pour soutenir l'outil de travail, pour soutenir votre commerce. Parce que le jour où on sortira de cette épidémie, il faudra bien pouvoir avoir les moyens de redémarrer. Alors là, normalement, la banque doit vous assurer un crédit de trésorerie quasi automatique, parce que la banque elle-même est contre-garantie par l'État à hauteur de 90% des engagements. Donc il faut que votre banquier vienne vers vous, si ce n'est déjà fait, vous alliez vers lui pour vous dire, pour lui dire, écoutez, voilà, je vais avoir tel besoin de trésorerie, il faut me dégager. Et normalement, il doit une réponse dans les 5 jours. C'est ce à quoi s'est engagée la Fédération bancaire française, donc l'organisation qui chapeaute toutes les banques, pour faire en sorte de évidemment, retrouver un bol d'air pour passer la période que nous avons devant nous.
Jacqueline, je me permets une petite incise, François Asselin. Quelle est l'attitude de la banque vis-à-vis de vous? Comment ça se passe avec la banque? J'imagine qu'il y a eu des coups de fil ces derniers jours et ces dernières semaines.
Pour l'instant, aucun. Je n'ai pas fait de demande, c'est-à-dire que je ne pensais pas fermer samedi soir. Et donc, on a été un peu pris de court. Et à partir de là, naturellement, il y avait une évidence, mais je ne pensais pas. Donc, je ne me suis pas mis en rapport avec la banque, puisque je n'habite pas à côté.
Oui.
Et donc, maintenant, je vais... moi, je suis mon compte de façon à ne pas me retrouver sans rien. Je suis en contact avec la comptable de façon à ce qu'elle m'aide à faire les démarches nécessaires, parce que il faut absolument que je puisse... et au mois de mars et au mois d'avril, parce que je ne pense pas qu'on va avoir des aides ou que les employés vont avoir leur salaire.
Oui.
Il va falloir que je leur avance leur salaire.
François Asselin, je vous ai coupé dans votre élan tout à l'heure, pardon.
Oui. Alors concernant les employés, si c'est très important, les employés vont être aussi, vous les mettez en chômage partiel, ils sont couverts à 100%. Et vous, en tant qu'employeur, vous êtes aussi remboursé à 100%. C'est-à-dire que vous faites l'avance des salaires, oui. Il faut avoir de l'argent, et l'administration va vous rembourser normalement dans les 14 jours. Et elle s'est engagée, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, à accélérer cette procédure de remboursement. On verra, parce que les dossiers vont être, enfin bref, ça va être colossal, les demandes de remboursement. Mais normalement, vous avez en tout cas une dette qui est opposable à votre banque. Elle sait que l'argent va rentrer. Donc ça, déjà, ça peut permettre de rassurer votre banquier s'il est un petit peu, il se fait tordre l'oreille pour vous accorder des facilités de crédit.
Et l'État s'est engagé à apporter sa garantie.
Voilà, mais normalement, il doit vous apporter cette facilité de crédit, puisque le banquier lui-même est garanti par l'État.
Jacqueline, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, nous entendrons Guy au standard de France Inter. Jacqueline.
Voilà, et puis bon, il va y avoir l'URSSAF, il va y avoir plus que toujours en nom propre, donc ça, c'est des grosses échéances, donc j'espère qu'ils vont tomber peut-être en avril, ou plus tard, peut-être qu'on aura réouvert, et j'espère que cette garantie sera beaucoup plus longue, c'est-à-dire qu'on nous permettra d'échelonner quelques mois, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous dire dès le mois d'avril, mais dès que l'on reprend notre activité, qu'on ne va pas nous dire, ça y est, il faut payer, vous êtes en retard. Voilà.
C'est ça, éviter le coup de bambou. Merci beaucoup Jacqueline d'avoir appelé au 01 45 24 7000. D'autres messages qui concernent les auto-entrepreneurs sur Internet. Béatrice, sur Twitter précisément. Quelle mesure pour les auto-entrepreneurs? Je suis retoucheuse, mon atelier est dans mon garage, j'ai dû le fermer. Quel dédommagement au plan du chômage, au plan des aides. Et puis sur ce thème, je crois que nous avons Guy en ligne également. Bonjour Guy.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Je suis commerçant ambulant, je vends des vêtements sur les marchés et tous les petits marchands qui sont sous statut d'auto-entrepreneur et qui ne vendent pas d'alimentaire se trouvent en chômage technique.
Oui.
Or, jusqu'à présent, aucune mesure concrète n'a été annoncée pour ces gens-là. Nous n'avons pas d'employés, nous ne sommes même pas des entreprises, c'est micro-entreprises, Voilà, j'aimerais savoir s'il y a des choses prévues.
François Asselin, est-ce que les mesures que vous avez détaillées, tout le processus que vous avez détaillé là dans les minutes passées, vaut aussi pour les auto-entrepreneurs ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Non, si vous êtes concerné, vous êtes micro-entrepreneur, c'est un statut juridique qui concerne quelqu'un qui a un statut de non-salarié, vous n'avez pas de salaire, vous rémunérez suivant le fruit de votre travail, en tout cas de votre chiffre d'affaires, et si votre chiffre d'affaires s'effondre, bien évidemment, vous n'avez plus à titre personnel de revenus, et ça je comprends tout à fait votre situation. Alors, les micro-entrepreneurs sont bien évidemment concernés par les mesures du gouvernement. Donc vous pouvez vous aussi repousser vos échéances, qu'elles soient fiscales ou sociale, Donc ça c'est important. Même à titre personnel, vous pouvez moduler votre impôt sur le revenu. Concernant les échéances bancaires, là aussi normalement, vous devriez pouvoir étalonner, si vous avez des remboursements d'emprunt, vos remboursements d'emprunt. Pour autant, ça ne remplacera pas le fait que vous aurez zéro revenu. Alors pour cela, le gouvernement a prévu un fonds de solidarité va concerner les indépendants et donc les micro-entrepreneurs qui font moins, alors ils sont très nombreux et vous êtes concernés par ça quand vous êtes micro-entrepreneur, mais moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui ont une baisse de 70% de leur chiffre d'affaires. Si vous n'avez plus de chiffre d'affaires, évidemment, la baisse elle est de 100%. Et là, ce fonds de solidarité pourra Alors, je n'en connais absolument pas les modalités, ça reste à préciser. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous donner de réponse précise.
Il me semble que ça commence par, alors c'est vraiment un début, mais par une aide directe de 1500 euros. Hein.
Exactement, ça commence par une aide directe de 1500 euros, c'est exactement cela.
François Asselin, je voudrais vous faire entendre un extrait du discours d'Emmanuel Macron, de l'allocution d'Emmanuel Macron hier, qui a été suivi par un nombre record de personnes, plus de 35 millions de personnes devant la télévision. Et au plan de l'économie, voilà ce qu'il a dit.
S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Pour les plus petites d'entre elles, et tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d'eau, de gaz ou d'électricité, ainsi que les loyers, devront être suspendus.
Alors, vous avez déjà évoqué une large partie de toutes ces mesures, François Asselin, mais je voudrais revenir sur les grands chiffres. 300 milliards de garanties, dit le président de la République. Bruno Le Maire parle de 45 milliards ce matin pour des aides plus directes, ce fonds de solidarité dont vous parliez. Est-ce que la réponse est à la hauteur ou est-ce qu'il manque encore des choses?
Oui, la réponse est à la hauteur, clairement oui. Maintenant, ce qui reste vraiment à préciser pour certaines mesures, on voit pour le fonds de solidarité, ce sont les modalités, hein, pour qu'elles soient les plus claires possibles et les plus rassurantes possibles pour tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient.
Le télétravail dans les petites et moyennes entreprises, est-ce que c'est particulièrement compliqué ou pas plus qu'ailleurs? Comment ça se passe? Quels échos avec vous, François Asselin? Et nous allons passer à notre deuxième sujet du jour.
Oh, le télétravail, ça concerne avant tout les fonctions support de l'entreprise, donc plutôt les fonctions administratives. Oui. Très peu de fonctions techniques, on ne pétrit pas le pain à distance, on ne réalise pas un chantier à distance, il faut être sur place. On n'accompagne pas une personne âgée à distance, il faut faire sa toilette, bien sûr, il faut l'avoir près de soi. Donc pour toutes ces raisons, c'est assez compliqué dans beaucoup de petites structures, mais quand on peut le mettre en œuvre, il n'y a aucune difficulté aujourd'hui pour le mettre en œuvre. Tous les freins ont été levés par le gouvernement.
Alors avant d'entendre Nelly Magré, co-auteur de ce livre Télétravail pour les nuls, un témoignage au Standard de France Inter 01 45 24 7000. Bonjour Mike.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Bordeaux.
Je vous appelle de Bordeaux, absolument. Ma question était, les explications faites données par le gouvernement sont relativement binaires par rapport au télétravail. Globalement, si vous pouvez travailler depuis chez vous, travaillez depuis chez vous. Mais c'est pas forcément si simple que ça lorsqu'il y a des intermédiaires. Je veux dire, moi je travaille pour une société qui imprime des skateboards. Mmh. On fait venir des matières premières de Chine, comme beaucoup de sociétés. Et entre ce qu'on fait venir, après on redistribue dans toute l'Europe, ne serait-ce que les transporteurs, par exemple, qui ne fonctionnent pas, ça coupe quand même la boucle, le fait d'avoir des intermédiaires qui ne peuvent pas suivre. Donc le télétravail ne résout pas tout, en fait.
Nelly Magré, vous êtes avec nous, je vous salue.
Bonjour.
Auteur, donc co-auteur de ce livre, Le télétravail pour les nuls. Pas facile de se mettre au télétravail, nous dit Mike. C'est le réflexe de beaucoup de Français, c'est compliqué de se mettre au télétravail.
Alors, effectivement, le télétravail, à la base, fonctionne sur le volontariat.
Ouais.
On voit bien là qu'on n'est pas du tout dans ce cadre dans ce cadre-là, puisque c'est un travail à distance dans l'urgence qui se met en place.
Ouais.
Avec des managers, des collaborateurs qui ne sont pas obligatoirement en plus motivés pour ce mode de travail. Donc effectivement, il y a déjà cette première difficulté. Ensuite, il y a ce que François Asselin évoquait. Est-ce que j'ai des tâches télétravaillables? Est-ce que j'ai des activités télétravaillables? Mmh. Donc il y a ces deux éléments-là qui effectivement rendent les choses un peu compliquées. Alors évidemment, lorsque les tâches ne sont pas télétravaillables, ce qu'il évoquait, un boulanger, effectivement, il y a toute une partie de ce qu'il fait qui ne sera pas télétravaillable. Mais il y a peut-être une réflexion à avoir sur, au-delà de son métier de boulanger, peut-être qu'il a des activités qui seraient télétravaillables. Mmh. Parce qu'il faut savoir que si sur une semaine, si 10%, on va dire à peu près 10% de ce que vous faites est télétravaillable, ça correspond déjà à une demi-journée de télétravail.
C'est-à-dire pour un boulanger, si on reprend cet exemple, c'est la compta, par exemple?
Par exemple.
Ouais.
Un jardinier, effectivement, il va pas pouvoir tondre à distance jusqu'à nouvel ordre, la pelouse, mais en revanche, il a peut-être des dossiers à remplir sur les suivis de plantation. 10% de l'activité correspond à une demi-journée de télétravail. Tout ce qui n'est pas télétravaillable, ça peut pas être magique. On peut pas effectivement faire du pain à distance, on peut pas tondre une pelouse à distance. Donc ça, c'est déjà le premier angle sur le télétravail. Et puis, effectivement, toujours se dire que la motivation des personnes à télétravailler est un élément essentiel aussi, puisque quand on parle de télétravail, normalement, c'est obligatoirement motivation à la base.
Et on n'a pas une culture du télétravail en France. On va redétailler ça avec vous, Nelly Magré. Je voudrais qu'on entende Joanne au 01 45 24 7000. Bonjour Joanne.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Alors voilà, je vous présente rapidement ma question. Je suis intérimaire et tous les employés de l'entreprise dans laquelle je suis sont tous en télétravail. Pour moi, ils ne veulent ou ne peuvent pas me fournir le matériel donc pour télétravailler. C'est peut-être pour une question de confidentialité, mais mon poste est tout à fait facile de travailler en télétravail. Donc, selon les mesures, je dois remplir une attestation de déplacement dérogatoire. Et en même temps, ma question est-ce que l'employeur doit me justifier, doit me fournir un justificatif pour prouver la possibilité de télétravailler, quoi. Du coup, et qui doit me la fournir, l'entreprise dans laquelle je travaille ou l'entreprise intérimaire, quoi.
Et j'ajoute peut-être, dans le contexte actuel, est-ce qu'il est obligé de vous fournir du matériel pour télétravailler, Nelly Magré? Globalement, on manque de matériel très concrètement pour pratiquer le télétravail en France?
Et oui, le télétravail s'anticipe en fait. Donc les entreprises qui ont anticipé le télétravail ont anticipé en même temps le matériel. Sauf que là, c'est complètement inédit, complètement imprévu. Et du coup, évidemment, beaucoup d'entreprises vont manquer de matériel pour le mettre à disposition.
Qu'est-ce que c'est le matériel très concrètement? Alors on imagine des ordinateurs, mais il y a aussi, j'imagine, des logiciels particuliers, des dispositifs pour pratiquer les conférences à distance, des choses comme ça.
Oui, tout ce genre de matériel, tout ce qui est en général matériel de communication. Et effectivement, vous évoquez les logiciels, il faut que le logiciel puisse être sorti de l'entreprise. Il y a des problèmes de confidentialité parfois. Donc tous ces éléments-là, effectivement, vous imaginez bien que ça se décide pas rapidement, et c'est pour ça que le télétravail nécessite de l'anticipation. Bon, là, comme il n'y a pas d'anticipation, de toute façon, il faut faire avec. Et effectivement, dès lors qu'il y aura du matériel, un matériel minimum, alors après, je dirais, pour réfléchir aussi, il faut inventer peut-être des choses qui n'existent pas encore en tout cas, et voir ce qu'on pourrait aménager étant donné l'existant. Est-ce qu'il n'y a pas des potentiels qu'on a laissés de côté et qu'on pourrait envisager aujourd'hui? Mais effectivement, sans le matériel de communication à distance, le télétravail semble bien, bien difficile à mettre en œuvre.
Et à votre connaissance, est-ce que dans le contexte actuel, il peut y avoir une notion d'obligation pour l'entreprise de fournir du matériel? Peut-être qu'on peut poser la question à François Asselin, d'ailleurs, qui est toujours en ligne avec nous. Peut contraindre un chef d'entreprise de dire il faut que vous fournissiez, dans le contexte actuel, un ordinateur et que vous l'équipiez de logiciels pour vos salariés?
Non, et puis ça aurait en plus, très honnêtement, un effet très contre-productif, oui. Parce que vous savez, l'employeur actuel, il a tellement de soucis à gérer aujourd'hui pour essayer de garder son entreprise et sa petite entreprise en vie, que lui donner cette obligation immédiatement, ça serait une injonction qui serait très malvenue. Ce qu'on essaie de faire, bien souvent, dans beaucoup d'entreprises, c'est de faire en sorte de prendre des mesures de bon sens. Dans mon entreprise, j'ai des personnels que je mets en télétravail, et bien ils ont pu prendre avec eux leur tour informatique, hein, c'est pas un ordinateur portable, parce qu'il y a des logiciels spécifiques, voilà, qu'ils n'ont pas chez eux. Et voilà, donc je l'ai autorisé exceptionnellement, et puis quand on sera sorti de cette période, ils reviendront travailler dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a quand même une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a des moments où on a besoin de faire équipe, voyez-vous.
Oui.
On a besoin de se parler de visu, on a besoin de se montrer, ne serait-ce que de travailler autour d'un plan, voyez. Hein, oui. Donc le numérique donne beaucoup de possibilités, mais rien ne remplace quand même le contact humain.
Nelly Magré, deux questions très concrètes pour ceux qui se sont mis au télétravail dans l'urgence, vous nous le disiez, depuis lundi. Un, comment on organise ces journées pour qu'elles aient un début et une fin, si j'ose dire? Et petit deux, qu'est-ce qu'un bon manager dans le cadre du télétravail? Le manager qui vous harcèle un petit peu via WhatsApp, via les mails, etc.
Non, le manager qui vous harcèle via WhatsApp, ça va pas être bon. Mais comme le manager qui vous harcèle au bureau, c'est pas bon,
c'est
non
ça.
Plus. Hein. Et effectivement, derrière le télétravail, il y a vraiment la notion de confiance. Je fais confiance à mon collaborateur parce que de toute façon, si je n'ai pas confiance, j'aurai l'impression que alors qu'il est chez lui, il ne travaille pas, et j'aurai la tentation de surveiller à chaque instant, de l'appeler à chaque instant pour bien vérifier s'il travaille. J'ai même entendu parfois des managers dire en fait, est-ce qu'on pourrait mettre une caméra pour vérifier que la personne est bien en télétravail? Vous voyez bien que c'est pas jouable, oui. Ni pour celui qui télétravaille, ni pour le manager. Le manager peut pas passer sa journée à vérifier si son collaborateur est bien devant l'ordinateur. Donc c'est vraiment une notion de confiance. Alors là où ça va être plus compliqué, C'est que cette notion de confiance, elle existe ou elle n'existe pas. Et malheureusement, pour certaines personnes, peut-être que cette confiance n'est pas instaurée et ce n'est pas cette situation d'urgence qui, d'un coup, artificiellement, va la créer.
Oui. Comment on organise ces journées ?
Alors, important, effectivement, de rythmer ces journées. Alors, en même temps, toujours pareil, hein, c'est considéré que c'est vraiment un cas très particulier, là. Et normalement, quand on télétravaille, par exemple, je prends ce cas-là parce que beaucoup de familles vont être impactées par cette situation, on ne s'occupe pas des enfants en même temps. Donc effectivement, comment organiser sa journée ? Normalement, on démarre à une heure définie, ce sont des accords avec les managers en plus qui se font, il y a la joignabilité au téléphone, on termine la journée à un certain moment, on ne la fait pas déborder, mais là, effectivement, comment les choses vont pouvoir se faire alors que les enfants seront parfois au milieu de, dans la maison avec tout le monde.
Dans les pattes, pour le dire vite.
Pardon ?
Dans les pattes, pour le dire vite,
oui,
on a les enfants dans les pattes. une toute dernière question, je la prends dans ma voix parce que le temps nous est déjà compté pour François Asselin, question de Camille. Je suis ostéopathe, profession libérale, on ne nous a pas demandé de fermer, mais on l'a fait quand même. Il y a un flou, est-ce qu'on a droit à quoi que ce soit dans ce cadre-là ?
Non, malheureusement non. Aujourd'hui, effectivement, il y a un flou et on n'a pas de réponse.
Pas de disposition particulière. Merci. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Françoise?
Oui, non, sinon, si on l'étalement de ses charges, comme tous les indépendants, elle peut étaler ses charges. Voilà.
Merci beaucoup, François Asselin, d'avoir répondu à nos questions depuis 12h30, président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Et merci également à Nelly Magré, co-auteur de ce livre, Le télétravail pour les nuls, de nous avoir éclairé sur cette organisation particulière du travail. Il est 12h56 sur France Inter. Dans quelques minutes, un journal complet, évidemment, comment le confinement quasi total se mettent en place en France depuis moins d'une heure. Mais d'abord, chaque jour, dans ce grand rendez-vous, nous tenterons de positiver, de zoomer sur les initiatives qui se prennent partout en France pour mieux traverser les semaines à venir. Et l'homme de la France des solutions sera avec nous tous les jours. Bonjour, cher Philippe Bertrand.
Bonjour Bruno.
En direct depuis votre Bourgogne. Vos carnets de campagne,
oui,
Philippe.
Oui, c'est ça, exactement.
Vos carnets de campagne sont en jachère pour quelques semaines, mais vous serez avec nous donc pour donner de l'écho à ces idées, ces initiatives qui vont forcément émerger. Qui est votre interlocuteur aujourd'hui, Philippe ?
Alors aujourd'hui, Jean-Louis Laville, qui est professeur au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers, qui est titulaire de la chaire d'économie sociale. Et je voulais, avec Jean-Louis, qui est là normalement. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Philippe.
Évoquer une réalité, on parle aujourd'hui de pénurie alimentaire, ça va un tout petit peu vite. J'étais frappé quand même, comme tout le monde, par les files d'attente devant les lieux de grandes surfaces ou d'épicerie, alors que hier j'ai reçu encore une lettre de détresse de maraîchers locaux qui perdent la restauration collective et qui font pourtant des ventes directes de produits. Des réseau AMAP en France, réseau Cocagne, qui sont des réseaux d'insertion encore plus fragilisés par la situation. Jean-Louis, on peut faire appel évidemment à ces producteurs locaux, ça me paraît essentiel aujourd'hui.
Oui, je crois que le problème que ça met en exergue, c'est que il y a aujourd'hui des milliers de petites solutions qui ont été inventées, d'inventions au niveau local, et celles-ci, elles ont été jusqu'à maintenant négligées par les grands, entre guillemets, décideurs. Hein, je crois que ce qu'il importe, c'est de changer de regard sur ces réalités. Hein, il va y avoir des élections locales dans quelques temps. Les nouveaux exécutifs, je pense, ils doivent aujourd'hui voir comment il est possible de soutenir toutes ces activités locales. On peut citer par exemple le Transiscope, hein, ce portail web des alternatives où il y a 22 000 initiatives qui sont recensées et qui montrent bien qu'il y a un véritable tissu de proximité qui est aujourd'hui disponible et qui demande à être valorisé autrement qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant.
Ouais, transiscope.org, si mes souvenirs sont bons pour l'adresse.
C'est ça, oui.
Je parlais des réseaux, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, autrement dit les AMAP. Il y a plus de 2000 groupes aujourd'hui en France. Autre solution aussi pour s'alimenter intelligemment, sans faire la queue, sans trouver des rayonnages absolument vides.
Et oui, c'est ça, c'est que les AMAP, elles sont aujourd'hui des solutions qui sont à portée de main. Hein. Et on voit bien que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les solutions locales, ce n'est pas du localisme, ce n'est pas de la fermeture. Comment est-ce que les AMAP ont pu advenir ? Par des circulations internationales, par des contacts qui se sont faits entre différents pays et différents continents. Donc, je crois que c'est une figure du local qui est aussi une figure d'ouverture qui s'enrichit de la diversité et non pas un local fermé.
Oui. Et à titre donc pratique, Bruno, je vous soumets deux adresses. Hein. Vous avez le réseau des AMAP, c'est réseau-amap.org, donc je dis il y a deux... plus de 2000 groupes en France. Et puis j'insiste beaucoup aussi sur les réseaux Cocagne, les jardins de Cocagne, qui sont des jardins qui prennent des hommes et des femmes, oui, en insertion, plus de 4000 personnes en insertion, 900 salariés. Le réseau, c'est réseau.cocagne.asso.fr. C'est un petit peu long, mais on tape Cocagne sur son moteur de recherche et on tombe directement sur le réseau.
On a noté ça, Philippe Bertrand, et vous avez le très bon goût de terminer pile sur les tops. France Inter, il est 13h. Un tour complet de l'information jusqu'à 13h30 en saluant aussi les auditeurs de France Culture qui sont avec nous. Depuis une heure, la France est en confinement très strict, sortie de chez soi autorisée sur justification uniquement, 100 000 policiers et gendarmes pour faire respecter la mesure, menace d'amende pour les contrevenants, mesure pour 15 jours au minimum, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner il y a quelques minutes.
Restez chez vous, c'est ainsi que vous pourrez aider à stopper la propagation du virus. C'est ainsi que vous pourrez venir en aide à nos personnels soignants et à notre système de santé. C'est ainsi que vous serez des alliés de notre guerre contre le Covid-19.
Les mesures prises depuis une heure sont les plus strictes d'Europe, assure le ministre. Toutes les questions sur ce confinement avec l'invité du journal de 13h, la porte-parole de la gendarmerie. Est-ce qu'il sera efficace ce confinement ? Nous irons en Italie, où il est en place depuis plus d'une semaine, pour en mesurer les effets. Dans le Haut-Rhin, les capacités de réanimation sont saturées. C'est une autre actualité de la matinée dans la lutte contre le coronavirus. L'armée prend le relais, des patients sont transportés par hélicoptère dans les régions un peu moins sous tension. Autre information de la matinée, le sanctuaire de Lourdes ferme ses portes pour la première fois de son histoire. Les frontières extérieures de l'Union européenne sont également fermées. Et dans cette guerre qui est aussi économique, la France, dit le ministre, est prête à recourir à des nationalisations si nécessaire. Depuis lundi, France Inter bouleverse ses programmes pour traverser cette période avec vous. Nous restons interconnectés jusqu'à 14h. Je vous donne le programme après 13h30. Le virus au carré, chaque jour avec Mathieu Vidard et un invité. Une question au carrefour de la médecine, de la science et de la société. Bien le bonjour, Monsieur Vidard.
Bonjour, Bruno.
De quoi parle-t-on aujourd'hui, Mathieu ?
On va parler de ces couples qui se demandent s'ils peuvent encore avoir des contacts physiques en raison des recommandations liées aux distances, justement. La sexualité par temps de pandémie et la vie des couples à huis clos. On en parle avec le sexologue Philippe Bruneau.
Et si vous avez des questions, des témoignages, vous êtes les bienvenus. 01 45 24 7000. Avant 14h aussi, chaque jour, la musique adoucit le virus. Mishka Sayas, le cher Mishka, nous propose un disque, un morceau, récent ou pas, et on l'écoute avec lui, évidemment. Les grandes voix de France Inter avec vous aussi, pour vous proposer des conseils de lecture, de films, de séries. Nous serons en ligne avec Jérôme Garcin tout à l'heure. Ensemble, jusqu'à 14h, c'est parti pour le grand rendez-vous.
France Inter, midi et demi, 14h. Le grand rendez-vous.
Et dans la guerre contre le coronavirus, guerre, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, une bataille cruciale a commencé il y a une heure. Depuis midi, confinement presque total dans toute la France. Ne sont autorisés que les déplacements absolument nécessaires pour se soigner, pour faire ses courses, pour aller au travail quand on ne peut pas le faire à distance. Si on est contrôlé, il faut avoir sur soi une attestation que l'on peut télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur et d'autres sites rapidement. 100 000 policiers et gendarmes doivent être déployés pour contrôler les Français. Le mot d'ordre général est simple, restez chez vous. Vous avez entendu Christophe Castaner dans les titres. Alors qu'en est-il ? Une ville emblématique, Paris, une place emblématique, la place de la République, sur laquelle il y avait des centaines de milliers de personnes après l'attentat contre Charlie Hebdo. Parole de Parisien, Rony, en route pour son lieu de confinement.
Je suis avec mon vélo, j'y ai chargé mes sachets de vêtements, donc j'ai un jeu d'échecs, j'ai des bouquins, j'ai des fringues, j'ai un peu tout. Je quitte mon appartement qui fait à peu près 12 mètres carrés, quoi, pas plus, pour un appartement de 35 mètres carrés où je compte m'installer avec un ami pour quelques jours. On essaie de survivre ensemble.
Voilà pour ce premier témoignage à votre micro. Bonjour Mathilde Deuimi.
Bonjour Bruno.
La place de la République en temps de confinement, chose vue avec vous Mathilde.
Oui, bah, je suis seule sur mon banc avec des pigeons hein, quasiment. Voilà, en moins d'une heure, honnêtement, la place est vraiment vidée. Le trafic automobile autour, même si vous l'entendez, est en train de se tarir. Reste encore quelques personnes, parfois avec des masques, qui pressent le pas, sac de course ou valise à la main. On a croisé aussi des joggeurs tout à l'heure qui avaient des roses à la main parce qu'un floriste a préféré offrir son stock aux passants plutôt que de devoir tout jeter. Il y a encore une demi-heure également, des jeunes enfants couraient ou faisaient de la trottinette chacun dans leur coin, mais ils ont disparu. Il reste encore autour de moi quelques livreurs en vélo, très peu, et puis les sans-abri qui sont sans solution de repli. Depuis quelques minutes, la police circule aussi sur cette place de la République et demande à nous, y compris leurs attestations, de circuler. Ils demandent à tous de rentrer au plus vite chez eux. Donc voilà, la place de la République est quasiment vide. Il y a encore les bruits de la ville autour de moi, mais ça devrait plus durer longtemps maintenant, Bruno.
Merci Mathilde. Un autre témoignage recueilli ce matin à votre micro, toujours dans ce quartier de la place de la République. Gérard.
J'ai 86 ans, mais je vais chez ma jeune mariée, parce que nous avons beau avoir 165 ans, nous deux, nous sommes jeunes mariés. Et donc, je vais la rejoindre. Depuis 40 ans, je n'ai jamais passé plus que 4 jours de suite avec la même femme. C'est une aventure, n'est-ce pas ?
Eh oui, c'est une aventure que nous allons traverser tous ensemble. Alors Paris est une chose, mais c'est dans toute la France que le confinement est mis en place, des plus petits bourgs de campagne aux métropoles. Écoutez José, il vit dans le département le moins peuplé de France, la Lozère, à Mende. Il a la quarantaine, confinement ou pas, il continuera de faire du vélo, mais en faisant attention.
Nous, ici en Lozère, on a la chance d'avoir beaucoup d'espace. Donc bon, ça va pas changer grand-chose. On fera juste en sorte de pas faire de rassemblement avec les copains pour faire du vélo, pour faire de la course à pied. On va quand même pouvoir sortir et prendre l'air, quoi. J'ai bien compris que la densité de population dans les grandes villes empêchait les sorties avec assez d'espace entre chacun. Donc bien sûr, voilà, nous, on va pouvoir profiter de cet espace pendant que d'autres vont être un peu coincés. Ouais. Ça va être bien. Je vais réapprendre à lire. Je vais réapprendre à prendre du temps pour écouter de la musique, pour écouter la radio, pour faire ce que j'ai pas eu le temps de faire depuis un petit moment. Voilà, non, je ne fais pas trop de soucis. Ça dure une semaine, 15 jours, 3 semaines. Moralement, mentalement, ça devrait bien se passer.
Un propos recueilli par Corinne Audouin. Voilà des témoignages plutôt souriants. Nul doute que ça risque de se tendre un petit peu au fil des jours. Alors, quelles sont les règles et comment vont se passer les contrôles avec nous? La porte-parole de la gendarmerie. Bonjour, Maddy Scherer.
Bonjour.
Une petite question d'abord, très concrète, puisqu'on vient d'entendre ce monsieur de Lozère qui dit « je vais continuer à faire du vélo, mais pas en groupe ». Ça, c'est autorisé, par exemple?
Eh bien, je crois que le ministre l'a rappelé ce matin, la pratique sportive, pas très éloignée de son domicile à partir du moment où on la pratique seule et sans risque de contaminer un tiers avec lequel on souhaiterait faire de l'exercice, reste autorisée dans la limite, bien sûr, de ce qui est acceptable. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment de comprendre l'esprit de ces mesures de confinement que le ministre a rappelé encore ce midi à l'issue du Conseil des ministres. Il y a vraiment une nécessité de prise de conscience générale. Ce message « Restez chez vous », en fait, on le porte et on le véhicule aussi sur tous nos réseaux sociaux pour inviter l'ensemble des concitoyens à respecter cette recommandation avec l'idée de freiner le développement de ce virus.
Des contrôles et des amendes éventuellement dès aujourd'hui, Maddy Scherer?
Aujourd'hui, on est dans une phase de montée en puissance du dispositif. Vous l'avez rappelé, on l'a entendu dans votre reportage. Les premières questions de force de l'ordre en direction des passants pour savoir s'ils sont munis de cette attestation, évidemment, commencent à arriver. Je pense qu'on est vraiment dans la phase de la prise de conscience. Pour certains, très certainement, hier soir, il y a dû avoir une forme l'information a été reçue peut-être de façon un petit peu brutale. Donc certains ont peut-être encore le besoin de terminer leur organisation pour ensuite être confinés chez eux. Je pense qu'on est dans cette phase de prise de conscience et d'organisation ultime avant, évidemment, de rester chez soi.
Donc si je lis entre les lignes, une certaine tolérance pour les premières heures et après, les amendes tomberont.
Bah écoutez, pour l'instant, en tout cas, c'est l'explication de la recommandation. Évidemment, on demande aux gens de respecter ces consignes parce qu'elles sont extrêmement importantes dans la guerre. Hein. C'est un vocabulaire guerrier qui a été utilisé hier par le président de la République que l'on mène contre cet ennemi invisible qu'est ce virus. Donc il est important que cette prise de conscience ait lieu. Donc ça fait maintenant une heure que ces mesures s'appliquent. Nous sommes là pour rappeler à tout un chacun qu'elles s'appliquent et pour inviter les gens à regagner leur domicile au plus vite, à rester chez eux. pour permettre évidemment au personnel soignant de pouvoir mieux absorber aussi l'augmentation du nombre des hospitalisations et permettre à chacun dans son service public de réaliser ses missions habituelles dans les meilleures conditions.
Maddy Scherer, une remarque que vous entendrez certainement, vous, gendarme, beaucoup dans les jours à venir. Je n'ai pas Internet ou ça ne marche pas, je n'ai pas pu télécharger l'attestation. Qu'est-ce que vous direz ?
Eh bien, en fait, c'est un cas qui a été prévu, qui a été énoncé, et j'espère que les personnes qui n'ont pas Internet ont malgré tout la capacité de suivre la télé. L'attestation, elle est également rédigeable, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut être manuscrite par les personnes. Donc, même si le citoyen que vous évoquez n'a pas la capacité d'imprimer ce modèle d'attestation, eh bien, il peut tout simplement le recopier de façon à pouvoir en disposer au moment où on lui demandera le motif du trajet qui est en train d'effectuer.
Alors, restez avec nous, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on aille prendre la température à Nantes. Bonjour, Béatrice Duguay.
Bonjour.
Comment se passe ce confinement et les éventuels contrôles depuis un peu plus d'une heure maintenant à Nantes ?
Alors, je viens d'une région, enfin j'ai longtemps vécu dans une région où on parlait de quart d'heure bordelais quand on arrivait en retard à des rendez-vous. Là, je dirais que c'est l'heure nantaise.
D'accord.
Parce que depuis un quart d'heure, ça s'est quand même assez nettement tari, mais la circulation reste en cours. Il y a encore des gens qui vont faire des courses, il y a des motos qui circulent. Le confinement est encore un vœu pieux, hein, même si encore une fois ça s'est assez nettement tari depuis une dizaine de minutes. À midi, c'est rien passé dans ce quartier Zola à Nantes où je me trouve. Il y avait encore beaucoup de voitures sur le boulevard, encore des gens dans les files du boulanger, du boucher, du primeur, même s'il avait plus beaucoup de légumes frais à vendre, il avait encore du fromage et du vin. Il y a eu du mouvement encore dans les commerces de bouche, tant qu'ils ont été ouverts. Il me semble que le boulanger est encore ouvert, mais les deux autres commerces afférents, eux, sont fermés. Je pense que le bar tabac est ouvert de l'autre côté là-bas. Il y a plus beaucoup de monde dans les bus. Le facteur, lui, était en train de terminer sa tournée il y a quelques minutes encore. Pas de policiers pour dire de rentrer, mais évidemment, ils peuvent pas être partout à la fois. Des voitures tournent, manifestement. Justement, c'est ce qu'on m'a dit, des motards aussi, sachant que les effectifs eux-mêmes sont diminués par les absences à Nantes. Nantes, donc, pas tout à fait ville morte pour l'instant. Je vous raconte aussi des moments bizarres dans les files. Ouais, dans les files d'attente ce matin, des moments bizarres quand des parents avec des enfants débarquent, regardent paniquer des personnes devant dans la file, voire assassins quand ces deux petites filles, par exemple tout à l'heure, qui avaient des fourmis dans les jambes, ont commencé à toucher un peu à tout.
Maddy Scherer, porte-parole de la gendarmerie. Combien de gendarmes déployés dans les rues à partir d'aujourd'hui ?
Bien, le ministre l'a annoncé hier, ce sont 100 000 policiers et gendarmes qui sont déployés pour accompagner en fait cette mesure et son déploiement. L'objectif, c'est véritablement de responsabiliser les gens, que chacun comprenne qu'il est important de rester chez soi pour son intérêt individuel et pour l'intérêt collectif. Bien évidemment, l'objectif n'est pas d'arriver à la sanction. On pourra y arriver en cas de comportement le nécessitant, mais véritablement, on est sur un accompagnement, une responsabilisation de l'ensemble des personnes à qui on demande de se conformer à une recommandation sanitaire de bon sens pour préserver sa propre santé et celle de ceux qui lui sont proches et qui lui sont chers.
Où est la priorité ? Est-ce qu'il y aura plus de forces déployées dans les villes, sur les routes, les axes secondaires, les autoroutes ? Est-ce qu'il y a des priorités établies ?
L'ensemble des sites régulièrement fréquentés, bien évidemment, seront l'objet de déploiements de patrouilles, mais l'ensemble des axes également. Vous savez, la manœuvre, elle est complète. Donc, les lieux touristiques sont visés, mais pas uniquement. On vise également les axes de circulation, qu'ils soient secondaires, que ce soit des axes majeurs. L'idée est de faire appliquer cette recommandation sur l'ensemble du territoire. Et la gendarmerie, avec le maillage territorial dont elle dispose et un grand nombre d'axes de circulation, bien évidemment, déploiera aussi des patrouilles aux abords des axes et pas uniquement sur les lieux touristiques.
Dernière question, Maddy Scherer. Quelles mesures de protection pour les gendarmes et pour les personnes qu'ils contrôlent ? Est-ce qu'ils seront masqués ? Comment ça va se passer ? Parce qu'il y a forcément une proximité nécessaire, surtout si le contrôle est un petit peu compliqué. Quelles mesures de protection ?
Eh bien, en fait, vous savez, les gestes barrières dont on parle depuis plusieurs jours s'appliquent également pour les gendarmes. Le respect de ce fameux maître dont on parle quand on a un interlocuteur face à soi, quelque chose que l'on applique aujourd'hui dans le quotidien. Les gendarmes ont bien sûr les consignes de se prémunir, bien évidemment. Et on ne parle pas évidemment de contrôle avec un masque pour l'instant. Hein. On reste une force humaine. Nous sommes là pour la population. L'idée est vraiment d'accompagner. Donc, les gendarmes prennent des dispositions disposition pour se protéger parce qu'ils doivent continuer à assurer la mission. C'est tout le sens de, d'ailleurs du travail de la gendarmerie en temps de crise, et on est tous impliqués. Et à l'opérationnel, je vous assure que l'ensemble des gendarmes sur le terrain vraiment est là pour la population, continue de l'accueillir suivant les mêmes règles, de façon à ce que le service public puisse se poursuivre.
Mais pas de masque pour l'instant.
Pas de masque pour l'instant, mais des mesures qui sont d'application d'ailleurs dans l'ensemble des organisations, ce fameux maître, et puis quelques précautions, le lavage de mains, les gants, voilà, de façon à éviter de s'exposer pour pouvoir ensuite, évidemment, continuer toujours à servir et à remplir cette mission de service public.
Merci Maddy Scherer, porte-parole de la gendarmerie, d'avoir répondu à nos questions. Alors, combien de temps cela va-t-il durer? 2 semaines sont nécessaires au minimum pour voir venir les choses, répond le ministre de la Santé, ce qui ne veut pas dire, loin de là, que la mesure sera limitée à 2 semaines. Quelle efficacité possible? On l'a entendu, hein, il y a des exceptions au confinement, notamment pour aller travailler. Donc ce confinement à l'italienne, est-ce que c'est une mesure suffisante? On va en Italie dans un instant pour en mesurer les effets, puisque là-bas la mesure est en œuvre depuis une semaine et même un peu plus. D'abord les doutes d'un médecin. Écoutez, Rémi Salomon, il est chef du service de pédiatrie de l'hôpital Necker.
Quand le président nous dit « restez chez vous, mais allez travailler si vous n'avez pas de télétravail », aller faire du sport dehors, le discours manque un peu de clarté. On transmet le virus par les postillons, à moins de 2 mètres de quelqu'un quand on lui parle, mais aussi beaucoup par les mains. On se touche le visage des dizaines de fois par jour, sans y penser. On touche des objets, on laisse le virus sur les objets que quelqu'un d'autre derrière va toucher et prend le virus. Donc tous les contacts, quels qu'ils soient, entre les gens, doivent être limités au maximum. Donc il ne faut pas aller travailler. Sauf si on est soignant ou quelques autres métiers très rares qui ne peuvent pas s'arrêter. Donc le télétravail le plus possible, mais si on ne peut pas faire de télétravail, on reste chez soi et on est au chômage. Sortir uniquement pour se ravitailler est le moins possible, peut-être une fois ou deux fois par semaine. Sinon, le confinement n'est pas suffisant. L'enjeu est majeur. Si on ne le fait pas, on risque d'être débordé.
Hier, le président disait « c'est la guerre ». En vous entendant, on se dit « c'est une question de vie ou de mort ».
Oui, si on limite la propagation du virus, nous aurons moins de morts.
Voilà pour cet écho qui alimente le débat, propos recueilli par Daniel Messager, qu'on réentendra tout à l'heure. Et bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
En direct de Rome, une semaine de confinement dans tout le pays, une petite dizaine de jours dans la région la plus touchée, la Lombardie. Est-ce qu'on en mesure déjà les effets, Bruce?
Ah oui, ici on parle de tendance à la baisse, mais attention, nous assistons à une diminution de l'augmentation du nombre de cas. Et c'est en Lombardie que c'est le plus visible, avec 1377 cas positifs en une seule journée, hein, contre 1587 la veille. Mais le président de la région, Attilio Fontana, ne veut pas se réjouir trop vite. On pourrait commencer à dire qu'il n'y a peut-être plus cette progression violente qu'il y avait ces derniers jours. Ce n'est plus une augmentation exponentielle. Les mesures de confinement commencent donc à produire de premiers effets, mais les soins intensifs risquent encore la saturation, avec 823 lits occupés pour la seule région de Lombardie. Pas d'autre solution que des mesures contraignantes, selon Attilio Fontana. Plus les mesures sont restrictives, plus vite on sort de cette crise. Je le dis depuis les premiers jours, si on restreint encore davantage et avec plus de rigueur les contacts humains, cela permettra d'interrompre plus vite la circulation du virus.
Bruce de Galzin, est-ce qu'on sait déjà quand le pic de l'épidémie sera atteint?
Eh bien, à l'université de Gênes, un médecin spécialisé en maladies infectieuses et un professeur de simulation de systèmes complexes testent un modèle de simulation pour identifier les futurs pics. En Lombardie, il pourrait intervenir dans une semaine, le 25 mars. Mais si les gens vont à la plage, par exemple, le système ne peut le prévoir et le résultat serait faussé. Dans les autres régions, il sera atteint plus tard. Et c'est une bonne nouvelle, car cela laissera le temps aux hôpitaux de s'organiser. Mais attention, après le pic, l'épidémie ne sera pas terminée. Elle aura seulement commencé à ralentir.
Bruce de Galzin en direct de Rome. À propos de la France, j'ajoute cette dernière minute. Les parloirs sont suspendus dans les prisons jusqu'au 31 mars. Décision du ministère de la Justice relayée par l'agence France Presse. À propos de l'Europe, un autre changement essentiel s'est produit tout à l'heure à midi, lors du confinement en France. Les frontières extérieures de l'Union européenne sont fermées depuis un peu plus d'une heure. Ne sont admis que les ressortissants d'un pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen ou les Britanniques. Pas de Brexit contre le virus. En ce qui concerne les frontières intérieures, il y a des contrôles, notamment à la frontière entre France et Allemagne pour les travailleurs transfrontaliers. Et puis en France, l'armée participe elle aussi à la guerre contre le virus. Pour soulager les hôpitaux civils dans les régions où les services saturent, les soldats vont-ils aussi contrôler piétons et automobilistes dans les semaines à venir? Voilà deux questions à propos de l'armée. Réponse de Nathalie Hernandez dans un instant. D'abord, un exemple très concret. Ce message angoissé ce matin sur France Inter de la préfète du Haut-Rhin, les capacités de réanimation sont saturées dans le Haut-Rhin. Toujours sur France Inter, le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Ce matin même, des hélicoptères du service des santé des armées sont en train de commencer l'évacuation, le transfert d'un certain nombre de malades graves, jeunes, pour les envoyer vers d'autres hôpitaux dans des régions dans lesquelles nous avons de la place. À l'échelle du pays, nous disposons encore à date de plus de 2000 places de réanimation ouvertes, avec des lits qui attendent les malades. Parce que j'ai fait déprogrammer toute l'activité dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques de France.
Voilà pour les hélicos de l'armée. Bonjour Nathalie Hernandez.
Bonjour.
Spécialiste des questions de défense à France Inter. Nathalie, quel sera le rôle de l'armée dans les jours et les semaines à venir?
Alors, pour l'instant, c'est une aide sanitaire supplémentaire que va apporter l'armée. Il faut savoir quand même que ces 8 hôpitaux d'instruction sont déjà mobilisés depuis le début de la crise. Donc là, c'est l'installation d'un EMR SSA. Il s'agit en fait d'une tente médicale de réanimation qui va pouvoir accueillir 30 malades sous la surveillance de médecins et d'infirmiers militaires. On parle de la ville de Mulhouse pour cet hôpital de campagne, mais pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Il faudra un petit peu de temps pour acheminer le matériel et quelques heures pour le montage de cette structure devrait suffire. Ensuite, les armées vont participer, Olivier Véran le disait, au transfert de patients dans d'autres hôpitaux afin de soulager les établissements les plus sollicités. Pour cela, on active les hélicoptères et aussi le dispositif Morphée avec des Airbus A330 Phoenix, par exemple. En alerte permanente, l'appareil dispose de tout le kit médical indispensable, y compris l'assistance respiratoire. Les équipages pourront faire des rotations sur tout le territoire, y compris l'outre-mer. Et si la situation s'aggrave, Bruno, les forces de l'ordre sont débordées, oui. L'exécutif pourrait demander aux armées de s'impliquer davantage, avec par exemple des militaires de Sentinelle qui viendraient soutenir les policiers et les gendarmes pour des contrôles sur des points de barrage. Mais attention, pas question de faire du maintien de l'ordre. Ce n'est pas le rôle des armées, rappelle régulièrement l'état-major.
Merci Nathalie Hernandez. Ce chiffre encore qui dit l'état d'inquiétude de beaucoup de nos compatriotes. L'allocution du président Emmanuel Macron suivie hier par plus de 35 millions de téléspectateurs. C'est un record absolu pour une intervention télévisée. Cette intervention où le président de la République parlait de guerre, les autres mots d'inquiétude, je parlais du message angoissé de la préfète de la région Grand Est, capacité de réanimation saturée dans le Haut-Rhin. Dimanche, on a entendu l'inquiétude de Martin Hirsch, aussi le patron de la PHP, les hôpitaux franciliens. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Avec vous Daniel, état des lieux dans un hôpital, en particulier celui de la Pitié-Salpêtrière.
Oui, effectivement, on le voit que les services de réanimation sont en première ligne. On a parlé de l'Est, les cas progressent en Île-de-France et on sait que le nombre de décès va être lié à la capacité de réaction de la réanimation. Si 80% des personnes contaminées vont s'en sortir sans problème, 15% passeront par une réanimation avec au moins 5% de très graves évolutions. Partout en France, les hôpitaux multiplient leurs salles de réanimation. Alors on sait que les chiffres de lits se montent à peu près à 5000. Oui. Les cas augmentent tous les jours. Vous l'avez dit, on va à la Pitié-Salpêtrière. On fait un tour d'ensemble avec le professeur Alexandre Demoule qui est réanimateur.
Je pense qu'une bonne façon de se rendre compte de la situation, on a actuellement à la Pitié-Salpêtrière 46 lits de réanimation. Exclusivement dédiés aux patients Covid-19. Ils ne sont pas tous occupés. C'est de l'ordre de 75%. On est déjà en train d'en ouvrir d'autres. On sent une montée relativement importante sur l'Île-de-France, plus 20 à 30 patients par jour à peu près, qui ont besoin de réanimation.
Et là se trouvent des malades dont les poumons ne peuvent plus effectuer leur travail.
En réanimation, on ne prend que les cas graves. Les patients dont l'atteinte pulmonaire est tellement sévère que les poumons ne sont plus capables de faire leur travail et donc il faut suppléer au moyen d'une machine qu'on appelle un respirateur qui n'est disponible qu'en réanimation et dans l'ensemble ils sont vraiment graves, 90%, et on va tout donner et donc on va ouvrir le maximum de lits pour prendre en charge ces patients.
Et ce confinement arrive pour vous aider en fait?
Nous attendons de ce confinement qu'il nous facilite la tâche.
Donc ces respirateurs, il faut aussi du matériel en quantité suffisante, ce sont des appareils absolument vitaux. Mais là encore, les fabricants ont été dépassés par l'arrivée de l'épidémie, avec une demande qui s'est mise à flamber, sans compter les personnes qui en bénéficient à domicile.
Voilà pour la médecine, on a longuement parlé d'économie entre 12h30 et 13h dans ce grand rendez-vous. Je vous rappelle les grands chiffres, 300 milliards d'euros, l'État met 300 milliards pour garantir les nouveaux prêts bancaires consentis aux entreprises fragilisées par la crise. Et puis il y a le plan anti faillite abondée à hauteur de 45 milliards d'euros. Ça, c'est une annonce de Bruno Le Maire ce matin. À cause de cette crise, le gouvernement anticipe un recul du PIB de 1%. Les grandes entreprises annoncent les unes après les autres des fermetures temporaires d'usines. La dernière en date, c'est Airbus qui a suspendu sa production en France, mais aussi en Espagne pour 4 jours. Comment le vit-on à Airbus Land, la région de Toulouse ? Élément de réponse avec vous, Stéphane Iglesis.
Dans son communiqué, Airbus explique que l'entreprise s'adapte aux nouvelles mesures gouvernementales décidées en France et en Espagne. L'arrêt des chaînes de production et d'assemblage va durer 4 jours, un temps suffisant selon la direction d'Airbus pour renforcer les mesures sanitaires et d'hygiène liées au poste de travail et éviter par exemple que les équipes ne se croisent. Jean-Marc Escourou est secrétaire du syndicat FO Avion au siège d'Airbus.
Déjà à partir d'aujourd'hui, depuis hier soir, pendant 4 jours, toutes les chaînes Airbus sont fermées. Ce qu'annonce la direction d'Airbus, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont désinfecter tous les avions, tous les postes de travail, et ils vont faire en sorte de partager les équipes pour pas que les équipes se croisent et pour pas que les gens soient à moins d'un mètre l'un de l'autre quand ils vont travailler, quoi. Et en fait, c'est clair et net, nous ce qu'on veut, c'est assurer que personne ne va se transmettre le coronavirus entre les salariés qui travaillent sur un même avion ou sur une même équipe, ou même qui pilotent un même avion, quoi.
Quant aux salariés qui ne sont pas indispensables à la production, ils travaillent tous depuis chez eux. L'entreprise dit se conformer aux recommandations sanitaires de l'OMS et du gouvernement. Toulouse, Stéphane Iglesis, France Inter.
Et il y a donc ces mesures de soutien économique. Au plan politique, la crise entraîne le report du second tour des municipales. Le premier tour est validé. Et tout ce qui ne regarde pas la lutte contre la maladie est aussi reporté à plus tard, même la réforme des retraites. Mais tout cela implique l'aval du Parlement. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Si beaucoup d'entre nous sont au chômage forcé en ce moment, les députés vont avoir une grosse semaine, Maxence.
Oui, pourquoi ? Parce que les institutions de la République, l'indépendance de la nation et l'intégrité du territoire ne sont pas menacées par cette épidémie. Et par conséquent, Emmanuel Macron ne peut pas s'octroyer les pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 16 de notre Constitution. La porte-parole du gouvernement vient de le confirmer. Le Parlement doit donc continuer son travail législatif et sa mission de contrôle. Résultat, il y aura des séances de questions d'actualité au gouvernement, au Sénat et jeudi à l'Assemblée. Et le Parlement va examiner en urgence deux projets de loi. Le premier va décaler le second tour des municipales au 21 juin et allonger les mandats des maires qui n'ont pas été réélus dimanche. Et le second, c'est un projet de loi de finances rectificative qui va permettre de nouvelles dépenses de l'État et qui autorisera le gouvernement à légiférer par ordonnance des mesures économiques et sociales liées à cette crise.
Et alors question Maxence, à l'heure du confinement et de la prise de distance entre chacun, on n'imagine pas 577 députés collés serrés dans l'hémicycle, comment vont-ils travailler ?
En effet, d'autant plus qu'à l'Assemblée, il y a déjà 26 contaminations, dont 18 députés, c'est presque un foyer épidémique. Donc pour les questions au gouvernement, seuls les orateurs seront dans l'hémicycle et les ministres concernés, 40 personnes tout au plus. Et pour l'examen des textes, en commission et en séance, les présidents de groupe pourront recevoir la procuration de tous leurs élus. 8 groupes et donc 8 députés seulement, plus quelques non-inscrits. Les débats ne dureront pas, hein. Tous voteront ces deux textes jeudi et vendredi au Sénat et à l'Assemblée. Et en parallèle, une mission d'information à durée indéterminée sera créée pour, avec 25 députés de tous bords, pour contrôler l'impact, la gestion, les conséquences de cette crise exceptionnelle.
Un dernier éclairage sur cette crise du coronavirus. En remerciant Maxence Lambrecq, nous allons à Hollywood, Los Angeles, Hollywood, qui est à l'arrêt, Loïc Piala.
Pourquoi est-ce que je te trahirais ?
Parce que tout le monde a un secret.
Décalé d'avril à novembre, la sortie de Mourir peut attendre, le nouveau James Bond aurait coûté au moins 30 millions de dollars au studio MGM. Mulan a bien eu le droit à son avant-première, mais la superproduction Disney aux 200 millions de dollars de budget est en stand-by. Alors que les salles ferment petit à petit, Universal a mis ses dernières sorties comme l'homme invisible sur Internet pour tenter de limiter la casse.
Il disait que je pouvais toujours m'enfuir, mais qu'il me retrouverait, et qu'il s'approcherait de moi, et que je le verrais même pas.
Parce qu'en plus, les millions engloutis pour rien dans la promotion de films déjà tournés, il va falloir assumer la mise en pause des productions en cours. Le cinéma ne se prête pas au télétravail. Selon The Hollywood Reporter, l'arrêt du tournage de La Petite Sirène coûte 300 000 dollars par jour à Disney. La télévision a également suspendu son activité. Les amateurs de Stranger Things vont donc devoir patienter pour découvrir la 4e saison de la série de Netflix. Chômage technique aussi pour les 800 personnes mobilisées sur la nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux. Les acteurs et les techniciens ne sont pas les seuls à trinquer. Hollywood fait vivre des traiteurs, des agents de sécurité, des médias spécialisés. Toute une industrie parallèle sans ressources pour encore plusieurs semaines.
Voilà pour ce reportage de Loïc Piala à Hollywood. Le cinéma à l'arrêt et le football, la grande compétition, l'Euro 2020, sera-t-elle annulée ou reportée? L'UEFA, l'Union Européenne du Football, a commencé à se réunir ce matin pour en décider. Théoriquement, l'Euro 2020 se déroule dans 12 pays différents du continent, du 12 juin au 12 juillet. Encore deux chiffres de la matinée en rapport avec cette crise. La Bourse de Paris à nouveau en baisse, mais en légère baisse, moins 1% à l'heure actuelle, avec certaines valeurs qui se reprennent très nettement. Carrefour, par exemple, plus 9%, ou Renault, plus 5%. Et puis, je vous invite à aller sur franceinter.fr, à lire notamment le travail mené par la rédaction pour vérifier les fausses informations, les fake news qui circulent à propos de l'épidémie et du confinement. Deux exemples. Non, l'armée ne converge pas vers Paris pour le couvre-feu, comme le montrent beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Attention aussi aux conseils médicaux envoyés par un ami, d'un ami, d'un ami. La lutte contre les fake news, c'est à voir sur franceinter.fr. La météo, Jean-Pierre Hameau.
Une bonne nouvelle pour commencer ce bulletin, nous allons retrouver des conditions anticycloniques apportant d'abord un temps sec. La décrue des cours d'eau va pouvoir s'amorcer. Et puis côté ciel, il faudra être patient cet après-midi, les nuages ne laisseront qu'une toute petite place aux éclaircies. L'ensoleillement sera tout de même plus généreux entre la Bretagne, la Normandie, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi dans un grand quart sud-est, sans oublier l'île de Beauté. Les températures maximales seront douces pour la saison et comprises entre 13 et 20 degrés du nord au sud. Dans le détail, on prévoit 13 degrés à Brest, 14 à Lille, 16 dans la capitale comme à Nancy et Orléans, comptez 17 à Tours, Bordeaux et Toulouse, 18 à Dijon, 19 à Toulon et 20 à Lyon, Nîmes et Marseille. Demain matin, les brouillards seront souvent au rendez-vous et en particulier entre le sud-ouest, le centre, le centre-est et le nord-est. L'après-midi, le soleil va gagner du terrain. Côté température, la douceur restera d'actualité.
Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
France Inter. Midi et demi, 14h. Le grand rendez-vous.
Et nous attaquons la dernière partie de ce grand rendez-vous. D'ici à 14h avec vous, il y aura Jérôme Garcin, conseil lecture et cinéma. Mishka Assayas, un disque pour oublier l'isolement. Mathieu Vidard et son invité. Question, peut-on encore se faire des câlins en couple en cette période d'épidémie? Et d'abord Sonia De Villers, bonjour Sonia.
Bonjour Bruno et bonjour à tous.
Votre émission L'Instant M est pour le moment suspendue. On vous retrouvera tous les jours à cette heure-ci pendant la durée de la crise sanitaire autour de cette question et de ce constat comment la vie se réinvente sur Internet. Alors aujourd'hui Sonia, tout le monde à la maison en ce moment, c'est aussi tout le monde sur Internet. Il y a les parents qui télétravaillent, il y a les enfants qui essayent de se connecter à base d'enseignement à distance ou de jeux. Hein. Tout le monde qui regarde des films et des séries. Est-ce que les fournisseurs d'accès peuvent absorber une telle surconsommation? Est-ce que ça va saturer?
Bah, en fait, on se pose la question depuis dimanche. Hein. Est-ce qu'il va falloir couper l'accès à Netflix? Est-ce qu'il va falloir couper l'accès à YouTube ou à Facebook pour éviter l'engorgement du réseau? Est-ce qu'il va falloir faire des arbitrages entre un Internet qu'on pourrait qualifier de sérieux et un Internet dit récréatif qui prend beaucoup, beaucoup de place sur la bande passante? Et la polémique, elle enfle parce que sur ce sujet, en fait, les avis divergent.
Alors, est-ce qu'il faut prendre des mesures pour soulager le réseau?
Alors, notre pic de consommation, Bruno, il se situe chaque jour, en temps normal, hein, en France, entre 18 et 20 heures, c'est-à-dire entre le retour de l'école, retour du bureau, jusqu'au dîner et jusqu'aux journaux télévisés. Oui. Or là, en fait, la surconsommation, elle est permanente. Elle est du matin au soir et elle ne va faire qu'augmenter avec le confinement. Les opérateurs télécoms y constatent déjà une très forte hausse de l'internet mobile et déjà ils conseillent à tous les citoyens, lorsque vous êtes à l'intérieur de la maison, faites basculer vos appareils, ouais, vos smartphones, vos tablettes sur le Wi-Fi. Si par exemple en ce moment vous écoutez France Inter sur votre téléphone, vous êtes très nombreux à le faire, ne le faites pas en 4G si vous le pouvez, connectez-vous sur le Wi-Fi, ouais, de la maison. Sauf que cela ne suffira peut-être pas, d'où l'idée de ralentir l'accès à certains sites, hein, pour donner la priorité à d'autres. En temps normal, il faut que vous sachiez que donner la priorité à tel ou tel contenu plutôt qu'à un autre est rigoureusement interdit en vertu de ce qu'on appelle la neutralité du web. Sur la bande passante, qui est une sorte d'autoroute numérique, tout le monde roule à la même vitesse. Les fournisseurs d'accès n'ont pas le droit de faire passer les services d'un gouvernement ou ceux d'un très puissant et très riche Netflix devant tous les autres, sauf en cas de force majeure. C'est le cas en ce moment, seulement sur injonction des pouvoirs publics ou sur décision de justice, évidemment. Les opérateurs vont pouvoir favoriser les uns en obligeant les autres à ralentir. Et c'est là, évidemment, si personne ne veut les nommer officiellement, c'est là que tous les regards se tournent, Bruno, ouais, vers Google, qui est la maison mère de YouTube, vers Netflix et vers Facebook, qui bouffent, il faut le savoir, à eux trois, un tiers de la bande passante en France.
Les goinfres, est-ce que ce serait opportun, du coup, de réduire ou couper l'accès aux géants du web? Et nous avons perdu Sonia de Villers. Voilà, ben peut-être. Voilà, le réseau est saturé, mais Sonia est avec nous.
Tout le monde n'est pas d'accord, ouais, parce que tous les contenus. Allô?
Allez-y. Je vous avais perdu.
Moi, je suis là. Vous m'entendez, Bruno?
Oui, très bien.
Alors, tous les contenus ne circulent pas sur les mêmes routes numériques, hein, sauf quelques gigantesques tronçons d'arrivée aux grandes villes. Du coup, le risque d'embouteillage est quasi nul parce que ces grands tronçons qui arrivent vers les grandes villes sont déjà surdimensionnés. Ils ne risquent pas de congestionner. Couper Netflix n'améliorera en rien du tout, par exemple, la messagerie interne de votre entreprise qui sature depuis hier matin. Mmh.
Merci Sonia de Villers. Comment la vie se réinvente sur Internet? On vous retrouvera tous les jours à 13h30 dans ce grand rendez-vous, juste avant un autre pilier de ce grand rendez-vous. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Bonjour, on vous a entendu dans les titres pour ce virus au carré que vous nous présenterez tous les jours. Et on parle aujourd'hui de nos contacts physiques intimes, mm-hmm, par temps de pandémie. La question peut sembler déplacée, pourtant la question du corps est tout à fait centrale dans la crise en cours.
Ah oui Bruno, puisqu'à force de devoir limiter nos contacts et respecter les distances physiques entre les personnes, bien c'est toute cette question de l'intimité de nos corps qui nous interpelle. Elle est centrale. Le philosophe Bernard Andrieux parle d'une situation inédite qui révèle à quel point il est difficile de renoncer à notre culture corporelle du contact. Alors si cette part de relation physique nous manque aussi cruellement et que la mise à distance d'autrui nous semble aussi étrange, eh bien c'est que cela vient rompre la place du toucher dans nos vies et les soins tactiles qui nous ont construits depuis l'enfance. Bernard Andrieux parle d'ailleurs de la perte de nos sources de consolation et de sécurisation affective.
Et cette crise du coronavirus viendrait donc aussi perturber notre vie sexuelle.
Ben oui, Bruno, il suffit de regarder le nombre d'articles qui ont fleuri ces derniers jours dans la presse et qui se demandent s'il faut arrêter d'avoir des relations sexuelles, si le couple peut survivre au confinement ou si le coronavirus est un tue-l'amour. Et conséquence de cette situation, eh bien, les ventes de sextoys ont explosé dans les pays concernés par le confinement, ainsi que la fréquentation des sites pour adultes. Et les paris sont aussi ouverts concernant le baby-boom qui pourra avoir lieu dans 9 mois. On voit même circuler sur Internet, Bruno,
oui,
un corona Soutra avec les positions les plus adaptées pour éviter de se faire contaminer par son partenaire. C'est pas facile, hein,
alors,
je peux vous dire.
On parle plus de positions, mais quelles sont les recommandations de l'OMS concernant la sphère sexuelle?
Alors pour le moment, ce qu'on sait, c'est que le coronavirus n'est pas classé comme infection sexuellement transmissible. Il faut simplement éviter les échanges de baisers avec des personnes porteuses du virus, évidemment, parce que là, il y a un risque de contamination. Ce qui est certain, c'est que l'incursion du virus dans la vie amoureuse se fait déjà sentir et que cette longue période de confinement va avoir des effets sur l'intimité de la vie des couples. En Chine, par exemple, les bureaux d'enregistrement de divorces ont été pris d'assaut ces derniers jours par des couples à bout de nerfs. Mais heureusement, rassurez-vous, les choses ne se passent pas toujours aussi mal.
C'est la raison pour laquelle nous sommes en ligne avec le sexologue Philippe Bruno. Bonjour.
Oui, bonjour Bruno.
Et je voudrais vous soumettre tout de suite la question de Samir qui nous appelle de Laval. Bonjour Samir. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Non, pas de Samir en ligne. Je vais vous la lire, la question de Samir. Elle est directe. Est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels en temps de coronavirus?
Eh bien, je pense que Mathieu vient d'y répondre. comme on est confiné avec, par exemple, son partenaire ou avec une personne avec qui on veut faire l'amour, je crois qu'il faut le faire dans des conditions, si on n'est pas malade, si le partenaire n'est pas malade, on peut faire l'amour comme on le fait d'habitude. Il n'y a aucune contre-indication, c'est pas une IST. S'il y a une suspicion de maladie, effectivement, il faut éviter les contacts buccaux et donc les baisers, essentiellement les baisers.
Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les couples là qui vont vivre en vase clos 24 heures sur 24, Philippe Bruneau? Ça vient rebattre complètement les cartes, non, de nos vies amoureuses?
Mais oui, Mathieu, moi, je pense que c'est quand même quelque chose de très compliqué. Je ne dis pas difficile, mais compliqué. Parce que, d'une certaine façon, ça redistribue les rôles. On se trouve dans une sorte de nouvel apprentissage de vivre ensemble. On n'a jamais vécu ensemble 24 heures sur 24, sauf, il faut le rappeler, les premiers jours où on est tombé amoureux. Et beaucoup vont vous le dire, d'ailleurs vous parliez tout à l'heure du toucher qui est essentiel. Eh bien, on va se toucher énormément lorsqu'on se rencontre. D'ailleurs, certains vont dire, on ne s'est pas séparé pendant 8 jours, on s'est touché en permanence. C'est ça qui va ensuite être rompu par la vie relationnelle, par les activités professionnelles. Et regardez, dans l'activité habituelle, on se rencontre 1 heure le matin, 2 heures le soir, et en fait, un peu le week-end. Là, on va se retrouver, on n'a jamais vraiment vécu ensemble. Il peut y avoir un huis clos qui fait que la présence permanente peut être soit fusionnante, soit séparante. Et je crois que ça va être un peu compliqué pour certains couples, et puis d'autres vont y trouver beaucoup plus d'amour, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire habituellement.
Philippe Bruneau, vous êtes médecin psychiatre, anthropologue, thérapeute du couple. Est-ce que vous avez déjà des témoignages, des appels de couples qui viennent d'habitude consulter chez vous et qui sont inquiets?
Oui, les couples qui me téléphonent sont des couples que je connais et ça peut amplifier un certain nombre de choses. Par exemple, le huis clos peut amener des facteurs, par exemple, d'anxiété qui vont rajouter, par exemple, aux troubles sexuels. Si autant, par exemple, la sexualité peut être boostée, peut-être par le phénomène même de la situation très inhabituelle. J'ai vu après les grandes catastrophes, après les attentats, j'ai vu des couples qui étaient totalement boostés dans l'amour parce qu'ils étaient devant cette catharsis, vous voulez, qui est provoquée par la mort possible. J'ai vu des libidos boostés. Et puis il y en a d'autres que ça inhibe totalement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des effets suivant les personnes. Et je vais dire plutôt que les hommes vont être plus facilité pour cela la plupart du temps, et un contexte très anxieux peut inhiber la sexualité féminine, ou du moins la disponibilité, et c'est là que je demande aux hommes, puisqu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, d'être très précautionneux, c'est ce que l'on va évoquer dans un instant, les conditions dans lesquelles on doit s'approcher de la sexualité.
On va l'aborder dans un instant, d'abord je voudrais qu'on entende Frédéric qui nous appelle de Pau, bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à tous. Ben, ma question a déjà été un petit peu évoquée dans les commentaires qui viennent de survenir. Et moi, j'avoue, j'aurais une position un petit peu optimiste. On aurait bien vu que les pouvoirs publics ont une responsabilité de prévoir les conséquences sanitaires de la crise que nous vivons. Et je me demande s'ils ont bien pris la mesure du choc, disons, obstétrical qui risque d'arriver dans 9 mois, surtout si on nous prive de l'accès à Internet. Voilà.
Que dites-vous, Philippe Bruneau? Est-ce que dans 9 mois, on va avoir un baby-boom? Est-ce que de précédentes crises peuvent nous éclairer?
Philippe Bruneau, est-ce qu'il est avec nous?
On a perdu le...
Oui, pardon. Ah, vous ne m'avez pas en ligne?
Non, ça y est, on vous a retrouvé. Voilà. Alors, baby-boom ou pas, est-ce que de précédentes crises peuvent nous éclairer?
C'est-à-dire que le baby-boom dont on parlait des années 40, il n'y avait pas de contraception à l'époque. Aujourd'hui, la plupart des couples qui désirent faire un enfant vont enlever leur contraception ou la conserver s'ils ne le désirent pas. Donc en fait, je ne crois pas qu'on arrive à un baby-boom, à moins que ce soit effectivement de la volonté, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose de désiré. Voilà, c'est tout.
Baby-boom ou baby-crack d'ailleurs, les paris sont ouverts aujourd'hui, Philippe Bruneau.
Oui, alors c'est vrai que la difficulté va être aussi, vous disiez, le crack par rapport aux enfants. On dit souvent que le premier empêchement à l'amour, c'est les enfants. La difficulté, ça va être le confinement. Avec le conjoint, effectivement, certains couples vont mal supporter une situation qui était habituelle. C'est-à-dire, je m'étais habitué à ce qu'on se rencontre pas trop parce qu'on s'est un peu éloigné. Ça, certainement, ça pourra donner, ce qu'on voit en Chine, des situations où on va réclamer la séparation. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, et là, on va donner quelques conseils, je voudrais en donner, pour que, au contraire, on essaie de retrouver un lien qu'on avait un petit peu perdu, parce que la plupart du temps, la vie ne nous laisse pas le temps, et notamment les enfants. Le premier empêchement à l'amour, c'est les enfants, c'est-à-dire qu'il va falloir protéger des territoires. Par exemple, la chambre des parents, eh bien, ça sera le territoire. On pourra se faire des câlins, se faire des massages, revenir avec ce que vous évoquiez de Bernard Andrieux, qui est tout à fait juste, le toucher, c'est ce qui est le plus présent au début de la relation, eh bien, c'est ce toucher qu'il va falloir rétablir pour les couples qui veulent se reformer, qui veulent aller plus loin et s'épanouir. Mmh.
Philippe Renaud, cette situation de confinement, c'est la cata absolue pour les couples infidèles, non? Par contre.
C'est très compliqué parce qu'effectivement, alors, il y a des façons de communiquer, mais effectivement, je ne peux pas communiquer librement puisque j'ai mon conjoint proche de moi. Et effectivement, ce qui était possible dans le milieu du travail, par exemple, ne va plus le devenir. Ça va peut-être permettre, moi je vais dire une chose, d'interrompre des relations que l'un des deux n'arrivait pas à interrompre. Ça pourra en renforcer d'autres. Sûrement que ça va faire un grand, un grand ménage parmi les couples. Mais je voudrais surtout dire à la plupart des gens qui nous écoutent que ça peut être une situation, même si on s'était éloigné, ça peut être une nouveauté, une façon de se retrouver. Pour cela, moi, un conseil, c'est surtout ce qui est attendu dans les couples hétéros, je parle essentiellement. Ce qui est attendu des femmes, c'est la présence. Mais cette présence, elle va peut-être être trop forte. C'est pas parce que je suis présent tout le temps qu'on peut faire l'amour tout le temps. Et je dis à la plupart des hommes que on n'a pas sous la main une sorte de partenaire avec qui on pourrait faire l'amour tous les jours. Donc je crois qu'il va falloir plutôt établir un climat de confiance, d'écoute, de bienveillance qui, à ce moment-là, permettra que cette partenaire vienne vers vous.
Philippe, pour terminer, un mot aussi pour les célibataires, parce que cette question du confinement en période de solitude est aussi très anxiogène, et je crois qu'il faut en dire un mot rapidement quand même.
Hein. Et je crois que c'est l'une des grandes questions, parce que ce que l'on voit augmenter dans la population, par exemple d'Île-de-France et même en France, c'est, Jean-Claude Kaufmann l'avait bien montré, c'est femmes seules avec enfants. Et la deuxième chose, c'est le nombre de célibataires qui augmente dans les grandes villes. Eh bien, moi je crois qu'il faut, à ce moment-là, que des liens soient tissés, ou se poursuivent avec les gens dans un climat affectif, par le téléphone, par les mails. Mais il faut pas rester seul, isolé, parce que c'est quelque chose qui sera sûrement très difficile à supporter.
Merci beaucoup, beaucoup Philippe Renaud pour ces paroles intelligentes, claires et sensibles. Je cite les références de votre livre « Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? Comprendre nos différences pour une vie à deux épanouie ». C'est aux éditions des Arènes. Merci beaucoup, merci à vous Mathieu.
À demain Bruno.
Et à demain pour le virus au carré. Et un nouveau rendez-vous dans cette tranche d'information d'ici à 14h. Vie ma vie de confiné. France Inter vous ouvre son répondeur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un numéro à retenir, c'est pas le numéro du standard, c'en est un autre. 01 56 40 68 68. Racontez-nous comment vous vivez cette période. Premier message laissé par Jacqueline. Elle est à la Butte aux Cailles à Paris.
Oui, bonjour, je m'appelle Jacqueline et j'habite sur la Butte aux Cailles à Paris, voilà, dans un immeuble, et on essaie d'organiser la résistance avec mise en place de courses de façon alternée, mais aussi ce dont on vient de s'apercevoir, c'est la question du ménage, de sortir les poubelles. On ne sait pas si ce service va continuer à être pris en charge par le syndic, donc il va falloir faire notre ménage, sortir nos poubelles, etc. Et donc, pour la suite, c'est se prêter des livres et faire un apéro chantant, à l'instar comme les Italiens, et mettre en place, je pense, très important, un espèce d'emploi du temps pour que le temps soit pas à vitam aeternam suspendu. Donc, il y a le jour du ménage, le jour de l'apéro, peut-être le jour d'échange des livres. Voilà, c'est des idées que je soumets aussi pour les autres immeubles parisiens. Merci de la mise en place de toutes ces petites choses qui nous permettent de survivre le plus sereinement possible. Merci France Inter, au revoir.
Et merci Jacques. Jacqueline pour ces idées. Appelez-nous 01 56 40 68 68. Vos idées et comment vous vivez cette période. Laissez-nous vos messages sur le répondeur. Eh ben, nous avons une idée, nous aussi. Écoutez un bon disque, un bon extrait de musique tous les jours avec quelqu'un qui connaît ça par cœur. Bonjour, Mishka Assayas.
Bonjour à vous.
Mishka, producteur de Very Good Trip.
Vous m'entendez?
Mais oui, je vous entends très bien, même si vous êtes confiné, vous aussi.
Ah, bon, parce que...
Il y a de la distance. Dites-moi. Un petit peu, mais vous allez nous aider à nous aérer chaque jour avec vous, donc un morceau de musique différent pour planer, pour danser, pour s'évader. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, Mishka?
Bah écoutez, pour ne rien vous cacher, je me suis arraché le peu de cheveux qui me reste avant de trouver la note juste en cette journée si étrange. Alors, en ces années 2010, il y a eu un tube, un classique dont peut-être vous vous souvenez, une chanson de style soul qui s'appelle Human, oui. Comme humain.
Oui.
Et son interprète en 2016 était un Anglais barbu, tatoué de partout, issu du rap, surnommé Rag & Bone Man. Et bien cette chanson, Human, vient d'être reprise magnifiquement par une guitariste de blues anglaise qui s'appelle Joan Shaw Taylor, qui est aussi, vous l'entendrez, une chanteuse remarquable. D'ailleurs, son timbre a quelque chose qui rappelle Tina Turner.
Ouais. Alors,
Joan Shaw Taylor, petite trentaine, s'est installée il y a quelques années dans la ville américaine de Détroit. Vous savez, c'est un des cœurs du blues, ouais, de la soul, du rock'n'roll et puis même du rap. Et dans cette période qui s'ouvre, où, voilà, comme certains le disent, on est tous démunis, déboussolés, étreints par la peur de mal faire, d'agir inconsidérément pour nous-mêmes ou nos proches, eh bien, ces paroles auront de quoi vous apporter, je l'espère, un peu de réconfort. Voilà, je cite, je suis peut-être naïf, je suis peut-être aveuglé de croire que je peux voir ce qu'il y a derrière tout ça, mais je suis humain, humaine après tout, alors ne me dites pas que je suis coupable.
On écoute cet extrait. Merci Mishka Assayas pour le concert.
See through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? What you believe? Cause I'm only human after all. I'm only human after all. And put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh. Some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord. Opinion and ask me to lie and pay for forgiveness for making you cry, for making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh. Some people got the real problems. Some
the best.
s'appelle Joan Shaw Taylor, le titre s'appelle Human, c'est une reprise de ce titre. Mishka Assayas, d'abord merci beaucoup parce que ça fait beaucoup de bien d'entendre cette musique. Petite question, est-ce que en ce moment là avec le
voix, hein.
Ah ouais, incroyable. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique en ce moment et comment est-ce que vous écoutez de la musique? Je sais pas, est-ce que vous avez encore des platines dans tous les sens? Comment ça marche chez Mishka Assayas?
Écoutez, là où je me trouve, je suis un peu démuni.
Aïe.
J'ai pas grand-chose à part les sites de streaming. Pour le moment, tant qu'il y a de la Wi-Fi, ça marche. Mais je dois vous avouer que j'ai pas vraiment pris le temps de m'asseoir trop confortablement dans mon canapé pour écouter de la musique parce que il y a hélas d'autres priorités comme pour beaucoup de gens qui nous entourent.
Vous avez une petite idée de ce que vous nous ferez écouter demain ou pas encore ?
Pas du tout.
Bon.
Pas du tout. Non. Alors là, vraiment, vous savez, je pense que l'idée juste, je la trouverais en me mettant au diapason de ce que je ressens, de ce qui se passe autour de nous, de ce que j'entends. Vous savez, je me disais, il faut pas être un truc trop joyeux, faut pas être un truc trop triste, faut quelque chose qui donne de l'élan, mais qui ait pas l'air d'être trop insouciant. C'est pas évident, hein.
Non, c'est compliqué, mais vous, jusque là, ouais. Pour la première, c'était parfait, donc je suis sûr que ça va continuer comme ça.
Ah bah c'est gentil.
À demain Mishka Assayas, merci beaucoup. Et on a donc écouté grâce à vous Joan Shaw Taylor et ce titre Human. Je vous donne une information de dernière minute, je vous en parlais dans le journal de 13h, le probable report de l'Euro de football qui devait se tenir entre les mois de juin et le mois de juillet. En tout cas l'UEFA, l'Union Européenne du Football, propose de reporter la compétition évidemment à cause de la crise du coronavirus. D'autres conseils, une autre voix connue et aimée des auditeurs d'Inter à présent. Bonjour Jérôme Garcin.
Bonjour Bruno.
Le masque et la plume le dimanche sur Inter. Et puis Jérôme, vous êtes aussi responsable et rédacteur en chef des pages culturelles de l'Obs. Et c'est ma première question à propos de l'Obs. Comment est-ce qu'on fabrique un journal en ce moment? Comment ça se passe de ce côté-là pour vous?
Alors en tout cas pour la culture c'est assez simple parce que effectivement tout est bouleversé. Plus de spectacles vivants, plus de concerts, plus d'expositions, plus de musées. Et en même temps, ça nous force à réinventer les pages. Alors, pour ce qui est du cinéma, c'est facile, on peut plus aller en salle. Non. On a une chance folle, malgré tout, de vivre en 2020. Il y a des tragédies, mais il y a des bonheurs. Les films, on les a en VOD, on les a en DVD. Il y a mille façons de voir du cinéma quand on a malheureusement plus de grand écran. Les livres, alors évidemment, les livres qui devaient paraître fin mars, avril, sont tous reportés. Hein. On attendait un roman de Camille Laurence, un livre de Philippe Labro, tout ça, c'est reporté s'inédié. Mais bon, il y a tous les livres qui sont sortis ces temps derniers. Là encore, on a la chance, on est en 2020, on a le livre électronique, oui. On peut télécharger des livres. Et donc, pour le journal, évidemment, on remplit nos pages avec des séries. Notre ami d'Inter aussi et du masque, Xavier Le Herpeur, nous a trouvé les meilleures séries à voir pour l'instant, les films en DVD. Et puis, il faut inventer, Bruno, des sujets intemporels. Et c'est, on en profite, je dirais, de cette crise. On peut aujourd'hui, on le sait, miraculeusement, visiter tous les plus beaux musées du monde en virtuel. Ça c'est possible. Il va y avoir une exposition qui va commencer jusqu'au fin août sur Louis de Funès, à la Cinémathèque. Oui. Je me suis posé la question, j'avais prévu une très grande ouverture des pages culture de l'Obs, et bien je la garde. Pourquoi ? Parce que la mythologie Funès et l'accès aussi aux vieux films de Funès, on peut le faire par le web. Donc, enfin bref, il faut faire le journal à distance, malheureusement. On se prive du rapport
et physique. Et concrètement, tout l'Obs est en télétravail. Comment ça se passe à France Inter? En gros, il y a les chefs de service et une personne par service. Et puis après, c'est beaucoup de télétravail. Comment ça se passe à l'Obs?
Aujourd'hui, c'est du télétravail à 90%. Oui. Voilà, et avec des réunions qu'on se fait, évidemment, sur... là encore, miracle du web, on peut se réunir ensemble. La fabrication proprement dite du journal, elle va pas beaucoup changer, elle sera toujours, je dirais, in situ, mais enfin, c'est sur la base quand même beaucoup du télétravail.
Alors Jérôme, il y a le masque et la plume à Inter, il y a l'Obs, et puis il y a votre activité d'écrivain. Est-ce que la période qu'on traverse est une période propice pour vous, pour se mettre dans un nouveau livre? Comment ça se passe?
Je vais vous faire, Bono, une réponse affreuse, parce que professionnellement, c'est vrai que j'ai besoin d'être relié heure après heure au monde. Je ne pourrais pas faire le masque et la plume ou l'Obs sans ça. Mais quand je me mets à écrire pour moi, je n'ai besoin que d'une chose, c'est d'être coupé complètement du monde. Et c'est affreux à dire, mais ce confinement, je vais essayer d'en tirer profit. Je sais que mon dernier livre qui était consacré à Gérard Philipe,
Le dernier hiver du Cid,
je n'aurais pas pu l'écrire dans les conditions professionnelles habituelles. J'ai eu besoin de me retirer. Ben là, je suis forcé de me retirer, mais je vais essayer de rêver au moins dans ce confinement nouveau une nouvelle façon aussi peut-être d'écrire.
Voilà, Le dernier hiver du Cid qui est sorti tout récemment. Est-ce que vous avez un conseil de lecture? Alors moi, je conseille Le dernier hiver du Cid. Vous, qu'est-ce que vous nous conseillez, Jérôme?
Oh ben moi, je conseille, on ne peut malheureusement pas voir ces temps-ci, ni les jours prochains, les nouveaux spectacles que nous préparait Bartabas, à la fois à Aubervilliers, à Zingaro, mais aussi à Versailles. Ça, c'est fini. Mais ouais, on peut s'offrir le livre de Bartabas, son premier livre. Ça s'appelle D'un cheval l'autre, c'est chez Gallimard. Et l'homme qu'on aime tant voir à cheval ou dans les spectacles qu'il monte, qu'il met en scène à Aubervilliers ou à Versailles, on peut le lire. C'est bouleversant, c'est l'adieu de Bartabas, de ce grand créateur contemporain à tous les chevaux qu'il a aimé depuis le premier emblématique Zingaro, le fameux frison qui donne son nom au théâtre équestre, et avec des pages sur la mort de Zingaro dans ce livre, mais qui sont à pleurer, et puis toute son histoire qui se raconte à travers ce qui est sa grande histoire d'amour, c'est les chevaux. Non, ouais, c'est vraiment très très beau. Et encore une fois, on peut aussi le lire comme si on était sous le grand chapiteau ou dans le théâtre d'Aubervilliers de Zingaro.
Est-ce qu'on se livre un petit exercice, puisque tout est nouveau en cette période? Est-ce que vous nous liriez quelques lignes? Est-ce que vous avez ça sous la main?
Si vous avez quelques minutes, hein, juste, je vais vous lire justement ce qui
J'en
s'est
ai
passé.
Une minute.
Une minute à la rencontre de Zingaro. C'est ce soir-là, après avoir copieusement arrosé l'arrivée du nouveau venu, donc Zingaro, ouais, que nous avons décidé dans l'euphorie et à l'unanimité de le baptiser Zingaro. Il endosserait le nom de notre théâtre équestre et musical. Premier nommé, il donnerait à la troupe sa descendance. Cette nuit-là, nous avons fait un pacte. J'allais contaminer son animalité, et il allait me permettre d'exister parmi les hommes. Aux humains de mon espèce, nous allions nous révéler pour la vie. Voilà, c'est du Bartabas dans la prose, dans le style et je dirais dans l'esprit.
D'un cheval à l'autre, c'est chez Gallimard. Est-ce qu'on sait si le masque est mis entre parenthèses dans les semaines à venir?
C'est en pleine discussion avec nos amis de la direction d'Inter, avec Laurence et Yann. Je ne sais pas encore très bien, je n'ai qu'une envie évidemment, c'est que ça continue. Je sais depuis la semaine dernière que j'enregistre sans public et... Et le masque sans public, comme disait ma grand-mère, c'est un baiser sans moustache, donc j'ai un peu de mal à imaginer ça, mais on peut peut-être, je sais pas, on va en parler, et je reviendrai peut-être vous le dire, si vous le permettez, cher
Renaud. Avec grand plaisir, Jérôme, on vous embrasse, il est 14h sur France Inter.